Le ton sur lequel Rousseau énonce les questions que devra considérer Émile suffit à indiquer quelles sont les réponses que Émile devra donner à ces questions, à savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui serait le droit d'esclavage, parce qu'il n'existe pas la possibilité de céder, de renoncer à un droit sur soi-même. Mais donc le moi, pour parler comme Rousseau, est inaliénable. Mais alors la question est de savoir si ce moi est inaliénable d'un point de vue normatif, c'est-à-dire que c'est une chose qu'il ne faut surtout pas faire, parce que ce serait indigne, ou si c'est une contradiction dans les termes, et que donc c'est impossible tout simplement parce que ça n'a pas de sens. Rousseau tend à répondre que non seulement c'est indigne et immoral, mais en plus c'est impossible. Et c'est cette réponse qui semble se dégager de l'œuvre de Rousseau qui est comme la suite de l'Émile, à savoir les lettres qui composent le livre qui s'appelle Émile et Sophie, dans lequel Émile, devenu adulte, écrit à son pédagogue, à son maître pédagogue, pour lui raconter les mésaventures qu'il a connues et qui le conduisent vers la fin de Émile et Sophie à être esclave à Alger. Et qu'écrit Émile, il dit ben, je suis esclave, mais je n'ai jamais été aussi libre. Et il nous trouve en ceci, je cite, je changeais plusieurs fois de patron, l'on appelait cela me vendre. Comme si on pouvait vendre un homme. On vendait le travail de mes mains, mais ma volonté, mon entendement, mon être, tout ce par quoi j'étais moi et non pas un autre, ne se vendait assurément pas. Donc le problème de l'aliénation, c'est en quelque sorte celui d'une possibilité impossible, ou d'une impossibilité qui malgré tout peut survenir, c'est-à-dire le fait qu'il y a une opération qui, non seulement est condamnée, mais est indescriptible si elle est logiquement contradictoire, et qui pourtant n'empêche pas le fait que les gens sont réduits à l'état d'esclavage. Ce qui veut dire que devant l'idée d'un sujet aliéné, nous devons trouver notre route entre deux écueils, deux obstacles qui pourraient nous empêcher de donner un sens à cette notion. Le premier obstacle serait d'en rester au fait que l'idée d'une aliénation de soi est contradictoire et que par conséquent, puisque c'est contradictoire, cela n'arrive pas. Et il faudrait donc dire que les états d'aliénation que l'on peut constater sont de pures apparences et que, en réalité, les sujets aliénés se sont aliénés eux-mêmes et puisqu'ils se sont aliénés eux-mêmes, ne sont pas vraiment aliénés puisqu'ils peuvent toujours remettre en cause leur propre dessaisissement de leur personnalité. Autrement dit, un sujet en état d'aliénation serait dans cet état par une espèce de mauvaise foi ou de faux semblant par lequel il ferait croire qu'il est dans cet état alors que s'y étant mis lui-même, il lui est toujours possible de s'en délivrer lui-même. A l'inverse, une autre façon de manquer le but serait, à l'opposé, de trouver que l'état d'aliénation est quelque chose dans lequel le sujet peut tomber, mais que d'une certaine façon, nous sommes tous en état d'aliénation et que le simple fait d'être un sujet conscient de soi me met en état d'aliénation. Et c'est cette possibilité que les philosophes ont souvent développé à partir d'une considération sur les personnes, au sens des personnes grammaticales. Et là, pour expliquer ce qui peut conduire les philosophes à loger une aliénation dans la structure même de la conscience de soi, je vais prendre le raccourci de la définition que donne Littré de ce que c'est qu'une personne au sens grammatical, c'est-à-dire au sens d'une marque que l'on donne au verbe.